Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 19 juin et toute l'équipe du Réveil Culturel vous souhaite une excellente journée. Toute l'équipe, c'est-à-dire Vincent Abouchard à la réalisation, Anaïs Isbert à la coordination et ce matin à la technique, Stéphane Touvelin. Tous les matins, c'est l'actualité des expositions et aujourd'hui, je reçois Annette Audiquet, directrice du MUMA. Et Denis-Michel Boël, conservateur général du patrimoine et co-commissaire de l'exposition « Né de l'écume et des rêves ». Les artistes et la mer du 19e siècle à nos jours. C'est donc au musée d'art moderne André Malraux au Havre et c'est jusqu'au 9 septembre.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Après le thème de la vague, après le thème du nuage, nous voici dans les fonds sous-marins. Né de l'écume des rêves, interroge la question des imaginaires liés à la mer chez les artistes de la seconde moitié du 19e puis du 20e siècle, c'est-à-dire au moment de bascule, au moment où le regard sur l'univers marin va changer, c'est-à-dire avant et durant des siècles, la mer, l'océan, inspirait plutôt l'aventure, l'effroi, la mort, l'Iliade et l'Odyssée, les sirènes fatales et les monstres marins. Puis au fur et à mesure que la science a avancé, ou plus précisément nous a plongé de plus en plus loin dans les fonds marins, donc au fur et à mesure que s'est développée l'océanographie, le regard et le rapport à la mer a changé. Les poètes et les artistes vont exprimer ce changement. Alors, bonjour Annette Audiquet, bonjour Denis-Michel Boël. Quelle est l'idée de départ de cette exposition? Est-ce que je l'ai bien introduite?
Mais parfaitement. Il s'agissait effectivement d'interroger la manière dont les découvertes scientifiques qui vont s'enchaîner à partir des années 1850 et conduire donc à la naissance de cette nouvelle science, l'océanographie, et bien comment ces découvertes vont venir modifier, amplifier, susciter l'imagination des artistes, les artistes les plus divers, puisque cette exposition ne réunit pas seulement des œuvres, des peintures, mais aussi des photographies, du cinéma, de la céramique, du verre, de la photographie bien entendu. Et donc c'est bien le sens de cette exposition.
Même la parole des poètes et des écrivains est présente dans cette exposition, puisqu'ils vont eux aussi exprimer ce changement. La terre est muette et l'océan parle, a écrit Michelet, quand Baudelaire lui proclamait « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Alors il y a des prêts exceptionnels dans cette expo.
Mais oui, des prêts exceptionnels. Alors, d'abord, rendons hommage au Centre Georges Pompidou, au Musée National d'Art Moderne, donc, qui nous a prêté un ensemble extrêmement conséquent d'œuvres. Plus de 50 œuvres viennent du Centre Pompidou.
Sur près de 200 exposés. Hein.
Sur près de 200 exposés, donc une part extrêmement importante. Ensuite, bien entendu, des œuvres importantes prêtées par le Musée d'Orsay, par la Cinémathèque française, par le Muséum National d'Histoire.
Ah oui, la Cinémathèque française, Méliès, bien sûr. On va en parler. Ouais.
Et puis pour les œuvres les plus lointaines, et peut-être que Denis Michel pourra en parler, il y a une œuvre qui vient d'Indianapolis, une œuvre d'Edouard Moran qui représente en fait un fond sous-marin, qui est une œuvre précoce et qui nous a été prêtée par le musée d'Indianapolis et qui vient pour la première fois en fait sur le territoire européen de son histoire.
Et vous avez bien fait d'ailleurs d'ouvrir cette exposition avec cette œuvre. Denis Michel Boël.
C'est une œuvre étonnante et fascinante à la fois. Parce que un Américain, en 1861-62, imagine et peint le monde sous-marin. Il appelle ça la vallée sous la mer. Or, personne n'a jamais mis les pieds au fond de la mer. Personne n'a même plongé, et encore moins un artiste. Et il figure le monde sous-marin sur la base de connaissances scientifiques embryonnaires. C'est-à-dire quelques êtres qui peuplent les fonds marins, quelques poissons dans un ciel chargé, comme si on regardait le ciel du fond de l'eau. Mais en fait, c'est totalement imaginaire. C'est une vallée du Grand Ouest américain, une transposition d'un paysage grandiose. Mais néanmoins, ce tableau nous a beaucoup intéressés parce qu'il a été la propriété d'un certain James Somerville, qui est un des premiers océanographes américains. Donc, il avait probablement commandé cette peinture à cet artiste paysagiste. Voilà, comme une œuvre de fiction, d'imagination, et c'est tout à fait étonnant parce que c'est en contraste complet avec ce qu'on trouve en Europe à la même époque pour parler, pour évoquer la mer.
Et c'est la première fois que ce tableau est exposé en France.
Oh oui, il n'a d'ailleurs pas dû voyager souvent, enfin partir des États-Unis probablement pas. On n'avait pas trouvé de traces de ce tableau dans des expositions antérieurement.
Et pourquoi vous l'avez choisi? Quand vous avez découvert d'ailleurs cette toile?
Je crois que c'est en cherchant justement dans l'histoire de l'océanographie. J'étais tombé d'abord sur une gravure de Somerville justement qui illustre un traité du monde sous-marin qui est de quelques années antérieures. Et voilà, par le renvoi des moteurs de recherche, j'ai vu que Somerville avait été propriétaire de ce tableau et on l'a vu sur Internet et on s'est dit mais c'est fascinant. Et voilà, on a eu le culot de le demander.
Alors qui était Édouard Morin? Je dis ça et en même temps pour ceux qui nous écoutent avec l'application France Culture à leur disposition, n'hésitez surtout pas à jeter un œil sur The Valley and the Sea. C'est qui Édouard Morin?
Édouard Morin c'est un peintre, on va dire, classique de paysage, qui a d'ailleurs, Annette, un frère
qui est plus connu que lui, voilà. Qui a participé aux grandes expéditions de découverte de l'Ouest américain, qui est allé à Yellowstone particulièrement. Édouard, lui, est plus modeste. Simplement, cette œuvre est absolument extraordinaire et certainement quelque chose d'assez unique en son genre.
En quoi elle est unique en son genre, Annette Audiquet?
Eh bien, parce que représenter les fonds marins, je dirais que pour en Europe, l'équivalent va être plutôt en fait dans la littérature avec Jules Verne,
tout
particulièrement, hein, qui paraît en 1869 avec donc la publication d'Hetzel, illustrée par
Alphonse de Neuville,
qui vont, enfin voilà, je veux dire, il y a pour l'imaginaire de génération le capitaine Nemo face au grand Calmar, ces gravures en fait de Neuville vont être extrêmement prégnantes. Mais comme l'œuvre de Jules Verne, il s'agit pratiquement d'œuvres de science-fiction, puisqu'en fait, à l'époque, les fonds marins, on ne les connaît pas. Et les premières investigations, enfin les premières recherches, les premiers sous-marins ne seront absolument pas des premiers sous-marins à vocation scientifique, mais plutôt militaires. Et on est donc dans dans ces années 1860, en fait, les artistes, qu'ils soient hommes de lettres, qu'ils soient artistes, peintres, imaginent ce fond des océans qu'on commence à appréhender. Et de manière, en 1859, c'est le premier essai.
De Darwin, bien sûr, de l'origine des espèces.
Et à la fois de la pose du premier câble transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, qui va se solder par un échec, mais quelques années plus tard, le câble sera posé. Donc on commence à connaître. Et puis Darwin, vous en parlez effectivement, Darwin, bien avec lui, est établi que la vie a commencé sur Terre, dans les océans.
Né de l'écume et des rêves, les artistes et la mer du 19e siècle à nos jours. Alors on pourrait bien sûr citer les artistes représentés ou exposés, oser le name dropping en quelque sorte, citer Gustave Moreau, Auguste Rodin, Émile Gallet, Mathurin Méheux, Max Ernest, Brassailles, Jean Painlevé, ne pas hésiter à terminer la liste avec le capitaine Nemo, vous venez de le citer, mais cette fois-ci représenté par le couple Pierre et Gilles. Préciser aussi qu'on croise aussi des écrivains, Jules Verne en a parlé, Victor Hugo aussi, Michelet, ainsi que des scientifiques et naturalistes comme Charles-Alexandre Le Sueur et Anna Atkins. Mais l'intérêt de l'expo est dans sa manière de nous plonger dans les fonds et de nous laisser porter par les flots, le flot des regards, des courants. On glisse des surréalistes aux artistes contemporains sans problème. C'est parce que tout s'entrecroise. Comment vous avez réalisé la scénographie, la mise en scène de cette exposition?
Alors d'abord, c'est un travail que l'on a fait à trois. Marc Donadieu, donc, est le troisième co-commissaire de cette exposition. Je dirais que l'architecture du musée, le musée du Havre est un musée sans mur. C'est un premier musée reconstruit d'après-guerre en France.
Tout en verre et en acier.
En verre et en acier, qui regarde vers la mer. Et donc, chaque scénographie, on l'invente à chaque fois. L'absence de mur nous oblige justement à créer à chaque fois un parcours. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est de montrer comment, de manière parallèle, s'effectuaient les recherches scientifiques et à la fois comment les artistes réagissaient à ces découvertes. Donc, en fait, le début du parcours de l'exposition, eh bien, je dirais que c'est un petit peu aux visiteurs de l'inventer. Soit on part tout de suite vers les salons, et tout particulièrement le salon de 1863 avec la présence de nombreuses naissances de Vénus, ou alors d'aller effectivement dans un autre registre qui est celui des dessinateurs qui s'embarquaient, tel Charles-Alexandre Le Sueur, donc un vrai, à bord des bateaux d'expédition scientifique comme dessinateur en fait à bord. Et puis le parcours se poursuit. Il y a donc d'abord une espèce de nœud qui est la présence du cinéaste Jean Painlevé, important, d'une artiste contemporaine, Elsa Guillaume, et puis on poursuit après les symbolistes en fait avec les surréalistes pour achever le parcours avec Nicolas Floch, qui est un autre des artistes de cette exposition qui a participé à l'expédition Tara-Pacifique.
Un des trois nocturnes composé en 1899 par Claude Debussy, Sirène. Comment les découvertes scientifiques ont-elles influencé, orienté l'imaginaire des artistes? En ce moment, le musée d'art moderne André Malraux au Havre nous invite à explorer quelques pistes et à découvrir donc quelques pièces qui nous rappellent à quel point ce moment de bascule a été déterminant. Est-ce qu'on peut dire qu'à un certain moment, la mer devient un sujet d'aventure plutôt qu'un monde, un domaine qui fait peur, Denis Michel Boël?
Alors, cette transformation du regard, en fait, elle se fait un peu plus tôt, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. C'est le début de ce qu'on va appeler la mode des bains de mer, 1830 à Dieppe, etc. Donc la mer se laisse apprivoiser vue du rivage, mais pas du tout...
Pour les fonds marins.
Oui, pas du tout, ni dans les fonds marins, ni même au grand large. Elle continue quand même à susciter l'effroi et l'angoisse. Il n'y a guère que les voyageurs, que les explorateurs et les artistes qui accompagnent les explorations qui ont pu... avec d'ailleurs des fois des tableaux saisissants, comme le tableau de Biard, la chasse aux morses dans l'océan Arctique, représenté de façon fantastique les icebergs, qu'il a pourtant observés, mais c'est la restitution qu'il en fait est tout à fait hallucinante. Alors, vers la fin du XIXe siècle, avec Jules Verne et avec d'autres écrivains, on plonge complètement dans l'imaginaire, mais on recueille des tas de choses de la mer. On étudie les animaux, on étudie les végétaux. Autour de 1845, une des toutes premières femmes photographes, Anna Atkins, réalise des cyanotypes, c'est-à-dire des impressions sur feuille qui est solarisée, voilà, mise à la lumière, des algues, d'un inventaire des algues de Grande-Bretagne. C'est tout à fait prodigieux, c'est parmi les premières photographies de ce type. Alors, ça, par exemple, c'est les premières révélations du monde marin. On présente, par exemple, des algiers, on se met à collectionner les algues comme l'ont fait les botanistes un siècle plus tôt, on va dire, ou deux siècles plus tôt. Et c'est fascinant, les algues séchées, minuscules, microscopiques, dentelées. Enfin, c'est voilà. Alors, ce sont des exemples parmi d'autres. Il y a tous les coquillages, il y a les coraux, donc qui sont révélés, qui sont observés, qui ne sont plus seulement l'objet d'une curiosité, mais l'objet d'une investigation scientifique. On présente ça dans un cabinet de curiosité, avec des œuvres contemporaines qui reprennent les mêmes démarches d'ailleurs. Donc ça, on avait besoin de le présenter dans l'exposition, dans des cabinets clos. On ne peut pas mettre ces œuvres si fragiles et si précieuses au grand jour. Donc on fait pénétrer le visiteur dans une série de pièces comme ça. C'est suivi par une évocation du monde sous-marin avec effectivement le capitaine Nemo, mais aussi les premières photographies sous-marines.
Elle date de quand, justement, Annette Audiquet, ces premières photos?
De 1898, ouais. 93-98. C'est Louis Boutan qui en est le réalisateur, qui est un biologiste qui travaille dans le laboratoire de Banyuls, puisque il y a aussi toute cette création de stations de biologie marine qui sont créées à la fois en France, à la fois en Europe, et que les artistes vont visiter. Un artiste tel que Böcklin va aller dans la station zoologique de Naples, cependant que d'autres, Mathurin Méheu, ira à Roscoff. Voilà. Donc en fait, ces rapports entre science et art se développent de manière très 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 concrète. Un artiste comme Odilon Redon, qui est très présent dans notre exposition, va être en contact, lui, direct avec un botaniste, Armand Claveau, et il va faire, en 1883, publier un recueil de lithographies qui s'appelle Les Origines. Les Origines, c'est vraiment un hommage direct aux théories de Darwin. Peut-être ce qui est aussi important, c'est de dire que les théories de Darwin et les découvertes scientifiques ouvrent non seulement en fait des perspectives effectivement de motifs nouveaux à travers la faune, la flore, mais ça vient aussi, je dirais, donner un fondement scientifique à quelque chose qui est très en vogue dans cette fin du 19e siècle, qui est ce goût pour l'informe, pour le curieux, pour l'imaginaire. Et on voit effectivement les naissances de Vénus céder le pas devant les sirènes. Alors les sirènes, elles peuvent être assez kitsch, elles peuvent être assez terribles, séduisantes, mais rappelons aussi quand même que la sirène, c'est peut-être aussi l'illustration du passage de l'animal à l'homme, du poisson à l'homme. Et donc ce goût pour l'hybridation, on le voit en fait très clairement dans l'exposition apparaître dans cette deuxième moitié du 19e siècle. C'est quelque chose qui va se poursuivre au XXe siècle avec les surréalistes, et le fond très important de photographie que nous montrons témoigne justement de cet intérêt pour la science et comment l'image scientifique a pu révéler à des artistes en quête justement de merveilleux, de choses inconnues, a pu leur révéler des pans de nature, du monde qu'ils vont utiliser, faisant de la macrophotographie et faisant surgir de nouveaux monstres.
Peinture, mais aussi sculpture, il y a quelques pièces à découvrir dans cette exposition, Née de l'écume et des rêves, les artistes et la mer du 19e siècle à nos jours. Donc il n'y a pas une planche de Racable Rouge d'Hergé, mais en revanche, vous avez réussi à avoir de la Cinémathèque française une représentation de Méliès.
Et oui, un petit film, effectivement, un film qui date de 1907, 20 000 sous les mers.
200 000
sous les mers, ou le cauchemar du pêcheur qui raconte effectivement eh bien le cauchemar d'un pêcheur qui part en sous-marin sous l'eau et fait d'étranges rencontres.
Alors voilà pour ce qui est de près de cette exposition, mais vous avez aussi demandé, Denis Michel Boël et Annette Audiquet, à des artistes contemporains de venir compléter cette exposition, comme si c'était une porte ouverte, à moins que ce soit des artistes que vous connaissez, qui sont originaires du Havre, je ne sais pas, mais...
Du tout.
Donc ce sont des artistes que vous avez invités en disant qu'il nous fallait un regard contemporain pour compléter cette incroyable histoire.
Alors il y a particulièrement une artiste invitée qui s'appelle Elsa Guillaume, qui est une jeune et brillante céramiste qui est sortie des Beaux-Arts il y a seulement 5 ans et qui a un monde à elle, un monde né aussi de... Enfin, du monde sous-marin, c'est quelqu'un qui plonge, qui explore le monde sous-marin et qui a un imaginaire tout à fait fascinant qu'elle transpose en céramique. Et comme ça, on peut voir une œuvre qui est un scaphandre décomposé en petites pièces, une tête de scaphandre qui est en lévitation, en suspension dans une pièce. Une autre œuvre qui est une très grande... un très grand assemblage d'éléments céramiques qui ressemble à quelque chose comme une araignée de mer gigantesque déployant ses pattes. Et puis, surtout, elle a réalisé, à travers un séjour de plusieurs semaines au musée Malraux, une grande fresque, je dirais presque malheureusement qui sera éphémère, qui est la transcription de son univers de son approche du monde sous-marin.
Alors c'est l'artiste Elsa Guillaume.
Et un second artiste, alors qui lui est plus âgé et plus reconnu, qui s'appelle Nicolas Floch, qui est un artiste d'origine bretonne, qui vient d'avoir une très grande exposition rétrospective à Rennes, au Fonds Régional d'Art Contemporain. Mais Nicolas Floch est quelqu'un qui... Le point commun avec d'ailleurs Elsa Guillaume, c'est que l'un et l'autre ont été invité à bord de la goélette Tara pour un séjour. Donc, évidemment, la présence à bord de Tara d'artistes vient accompagner la démarche scientifique et la démarche d'attention qui est portée à la nature. Tara, depuis plusieurs années, travaille par exemple sur le plancton. Et ça rejoignait les préoccupations de Nicolas Floch, qui est quelqu'un qui réalise des photographies sous la mer. C'est un plongeur aussi, d'ailleurs. Des photographies qui ne sont pas seulement des grandes œuvres plasticiennes, mais qui nous font sentir à quel point le monde sous-marin se dégrade.
Oui, alors c'est cette question que je voulais vous poser à vous, Denis Michel Boël et Annette Audiquet. Vous avez choisi ces artistes parce que, esthétiquement, leurs travaux vous plaisent, ou parce qu'ils se posent la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire les enjeux écologiques, parce que chacun d'eux sonde à sa manière les fonds marins et s'interroge sur leur devenir.
Bien sûr, et on assiste effectivement à une espèce de renversement des peurs, c'est-à-dire que très longtemps, pendant des siècles, l'homme a eu peur de la mer et maintenant nous avons peur pour la mer, pour son avenir. Et c'était effectivement extrêmement important d'avoir des artistes contemporains. Pourquoi les artistes de nos jours s'intéressent-ils aussi à la science? On ne découvre plus, si on découvre bien sûr toujours un monde incroyable, mais il y a quelque chose qui est du domaine de l'inquiétude pour le devenir de cet univers. L'homme a été un grand prédateur des océans et les photographies de Nicolas Floch, le travail aussi de Simon Faithfull, la vidéo que nous présentons, et c'est un choix. L'exposition regroupe déjà presque 200 œuvres, donc effectivement on aurait pu en choisir beaucoup plus et inviter beaucoup plus d'autres artistes, mais en tous les cas tous ont en commun cette préoccupation, cet intérêt et cette inquiétude pour le devenir des océans.
Dès le départ, une de nos intentions était celle-là, hein, d'attirer l'attention, grâce à la sensibilité de quelques artistes, sur ce monde menacé. Tous les jours, les nouvelles concernant ce que nous allons retrouver dans notre assiette et qui vient du monde marin, comme l'élément dans lequel vont se baigner les gens à la plage, etc., sont porteurs d'inquiétude. Et là, on a des gens qui, depuis des années, s'interrogent, ont senti ces choses et les transposent et les transcrivent. Et leurs œuvres sont vraiment une source d'interrogation pour tous.
Interrogation, ou comment on est passé de la peur de cette mer, tour à tour belle, mais qui peut se révéler monstrueuse, tentatrice, destructrice, et aujourd'hui en danger. Tout ça est dans ce parcours, tout ça est dans cette exposition née de l'écume et des rêves, les artistes et la mer, du 19e siècle à nos jours. C'est jusqu'au 9 septembre, je vous le rappelle, au Musée d'Art Moderne, André Malraux au Havre. Merci Annette Audiquet, je rappelle que vous êtes directrice de ce musée. Merci à Denis Michel Boel, que vous êtes conservateur général de, du patrimoine, et vous êtes deux des trois commissaires de cette belle exposition qu'on vous recommande vivement. Merci d'être passé nous en parler ce matin.
Merci. Merci à vous et bonne journée.